Merci, Laurent, pour cette présentation trop élogieuse et surtout qui dénote une lecture fine d'un ouvrage qui, c'est vrai, m'en excuse, est peut-être un peu complexe, peut-être un peu dense, qui est vraiment un petit peu dans ma petite expérience, une somme, et en même temps, je dirais pas un aboutissement, mais ce qui est curieux, c'est que ce thème du bœuf, de l'animal bovin, me hante depuis que j'ai commencé à faire de l'ethnologie. À un moment donné, j'ai cru m'en débarrasser, je n'en pouvais plus. Et je voulais faire autre chose, j'ai essayé, bon, j'ai fait des petits travaux sur les idéologies. Puis, en voyageant au Mexique, je me suis dit, là, il y a une possibilité ici de relancer ce terrain, cette question du taureau et du cheval, son compagnon, en étudiant les transformations du taureau et du cheval au Mexique, dans la mesure où, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les Espagnols ont apporté clé en main le cheval et le taureau sur le continent américain, à commencer par les Antilles et le Mexique. Le cheval comme animal de conquête, le cheval, l'animal militaire par excellence, c'est l'animal qui fait la différence entre la petite armée de Cortés et la multitude des armées mexicaines, des Indiens, des armées de Montezuma, mais qui sont à pied et puis qui sont en même temps complètement fascinés par cet animal inconnu, et enfin, d'abord évidemment pour un centaure, et puis ensuite qu'ils associent à la divinité supposée de ces envahisseurs blancs et barbus. Et puis progressivement, au cours de la guerre de conquête, ils se rendent compte que les chevaux sont bien mortels, puisqu'ils arrivent à en tuer quand même un certain nombre. Et donc à partir de ce moment-là, le taureau et le blanc, l'espagnol, et le cheval, pardon, et le blanc, entrent dans la logique sacrificielle des Indiens du Mexique. C'est-à-dire que la logique sacrificielle des Indiens du Mexique, c'est de capturer l'ennemi, de l'adopter. C'est un processus rituel qui consiste à ce que Duverger appelle la guerre fleurie. Christian Duverger, le grand spécialiste du Mexique précolombien, appelle la guerre fleurie. C'est cette guerre rituelle qui était maintenue comme un rite par les armées. Par les Aztèques et leurs voisins traditionnellement ennemis, les confédérations étatiques de Cholula, de Tlaxcala et de Huitzingo, qui étaient des petits États qui soi-disant étaient indépendants de l'Empire aztèque, mais qui en fait étaient dépendants par la guerre fleurie, parce que les Aztèques auraient pu envahir ces états-là, mais ils ne le faisaient pas. Ils maintenaient une fiction de guerre, en fait. Parce qu'il fallait toujours avoir des ennemis, il fallait avoir toujours des étrangers à aller chercher, à aller capturer, à ramener, à adopter. Alors on adoptait, on donnait une fille à marier aux prisonniers qu'on avait fait, on l'élevait dans la famille, on le gardait avec soi. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain terme, on le sacrifiait par cardioectomie, donc arrachement du cœur. Et on faisait pareil avec le gibier. Il s'agissait dans la chasse, dans les chasses rituelles également, de capturer autant que possible le gibier, en particulier les grands cerfs, les cerfs de Virginie. Massacre, comme disaient les Nahuatl, le cerf massacre, c'est l'animal de chasse par excellence. Qui était capturé dans des chasses à la battue, complexes, en cheval à l'époque, chasse à la battue qui pouvait réunir jusqu'à 5000 chasseurs, qui rabattaient les cerfs vers des filets et des collets de chasse, des systèmes de cordage, qui permettait de capturer autant que possible les cerfs vivants pour les ramener. Et ces cerfs vivants étaient donnés en tribu aux puissants. Moctezuma avait un zoo. Si vous lisez les lettres de Cortés à Charles Quint, où il raconte l'aventure de la conquête, hein, il parle à un moment donné du zoo de Moctezuma, qui voit comme une pratique de loisir, en quelque sorte une pratique aristocratique de loisir. Mais en fait, si Moctezuma gardait dans son palais, dans les dépendances de son palais, des animaux vivants, des animaux sauvages vivants, c'était des animaux qui étaient adoptés, donc des animaux qui avaient été ramenés par les chasseurs, qui en tribut payaient donc à l'empereur ces animaux vivants, et puis ils étaient entretenus, au bout d'un certain temps, ils étaient sacrifiés. Donc il y a toujours ce principe de capturer l'étrangeté, l'altérité, pour la ramener vers soi, la faire sienne, l'adopter, voire l'imiter. Hein. Les chasseurs, par exemple, les chasseurs préhispaniques qui se déguisaient en cerfs pour approcher les cerfs. Hein, et il y a un phénomène d'assimilation, d'imitation de l'étrangeté et d'adoption et puis finalement de sacrifice. Et de réduction de l'altérité au même, à soi-même, c'est-à-dire à sa famille, à son lignage, et finalement de sacrifice. Et la croyance que c'est de ce processus-là que dépend la continuité du monde. C'est toujours cet univers eschatologique, hein, de l'ancien Mexicain, dont j'ai cru, je ne suis pas le seul, la plupart des ethnologues qui travaillent au Mexique, retrouve à travers les traditions contemporaines hein, des Indiens, des communautés indigènes qu'ils ont à faire, retrouve toujours ces vieux schèmes à travers l'observation et l'analyse des rites qui sont toujours célébrés et dans lesquels entrent une multitude d'éléments qui sont issus du contact. Alors ça c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, pourquoi étudier les traditions indigènes du taureau et du cheval, c'est des animaux importés, c'est des animaux espagnols, c'est des animaux qui symbolisent l'Espagne. Alors je l'ai dit, le cheval comme animal militaire de la conquête, qui fait la différence entre la puissance militaire espagnole et la puissance militaire indigène. Et puis le bœuf, hein, le bœuf c'est pas l'animal de la conquête, c'est l'animal de la colonisation. C'est-à-dire que comment on va coloniser le Mexique? Eh bien, à base d'élevage. On va introduire l'élevage extensif qui est un principe de la péninsule ibérique, enfin du sud de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'exploitation des grands espaces qui, en Espagne, étaient associés au grand domaine latifondière de la noblesse et qui, transposés au Mexique, repris par des gens qui ne sont pas du tout des nobles, hein, qui sont des aventuriers, les capitaines de la conquête, qui sont des gens qui viennent du peuple, hein, mais qui veulent imiter la noblesse. Alors là, donc, ils font des élevages pour affirmer leur colonna. Et c'est surtout dans dans le Mexique central, où les Espagnols ont affaire à des Indiens qui vont appeler Indios Mansos, Indiens domestiques, c'est-à-dire des Indiens qui ont été réduits à l'esclavage et réduits d'autant plus facilement que ce sont des Indiens qui vivent dans des structures urbaines étatiques. C'est toute l'influence de l'Empire aztèque, hein, où là on a des cités-états et où on a une agriculture, on a des civilisations agraires, hein, la culture du maïs, de la courge, du haricot et du piment. Hein, largement développé quand les Espagnols arrivent. Donc on a des civilisations agraires et urbaines. Donc les Espagnols n'ont aucun mal à implanter leur colonie dans ce milieu-là. Par contre, dès qu'ils vont vers le nord et l'ouest, alors là ça se complique. Parce que là on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades. Et ceux-là, ils sont irréductibles, ils ne se laissent pas faire par les Espagnols. Ils les appellent immédiatement les Indios Bravos, sauvage, hein. Et là, le meilleur système pour les embêter, en quelque sorte, c'est les coloniser, ce qui est un peu la même chose, vous me direz, mais c'est plus complexe que ça, c'est bien de mettre des taureaux, de mettre des bovins, des bœufs, sur leur terre. Et alors, à l'époque, il n'y a pas de clôture. Donc on va avoir un développement de l'élevage, et non seulement dans les zones agraires, ce qui est classique, si vous voulez, le classique schéma méditerranéen, hein, les Espagnols vont planter du blé, et ils vont élever donc du bétail dans le Mexique central, qui correspond à la société urbaine et agraire, et puis pour coloniser les zones où il y a les Indios Bravos, bien, ils vont avoir des missions qui vont remonter justement dans la Californie. Et puis les soldats colons, la classique tactique du soldat colon, d'origine romaine, soldat colon qui met son bétail. Et voilà. Alors, que vont faire les Indios Bravos par rapport à ce bétail? Que vont faire les Indios Mansos par rapport à ce bétail? Mais les Indios Mansos, ils vont être employés comme vaqueros, comme vachés. Hein, pas faire autrement. Ah, et ce, en dépit de l'interdiction formelle dictée par la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, interdiction formelle aux Indiens de monter à cheval. Ça, c'est d'entrée. Il faut marquer la différence de caste, hein, dans une société qui va s'affirmer comme une société de caste. Hein, la différence formelle entre les Espagnols, qui sont les caballeros, les messieurs, mais en même temps caballeros, c'est chevaliers, ceux qui montent à cheval, et les Indiens, les Métis, ça, qui n'ont pas le droit de monter à cheval. Donc interdiction de monter à cheval. Le problème, c'est que tous ces gens qui colonisent, et qui colonisent à base d'élevage bovin, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de vachers, surtout dans une conception extensive de l'élevage, sur des terres non clôturées, où on a des taureaux et des chevaux qui ont tellement d'extension devant eux certaines parties de troupeaux marronnent, hein, comme dirait mon collègue et ami Jean-Pierre Digard, s'échappent de l'influence de l'homme et retournent à l'état sauvage, reproduisent à l'état sauvage, créent des races autochtones, comme ça, qu'on va appeler des taureaux créoles, des chevaux créoles, entrent dans l'écosystème américain. Donc, dans un tel contexte, il faut de la main-d'œuvre pour avoir une certaine maîtrise des animaux, pour que l'élevage soit l'élevage. Et donc, on emploie ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire des Indiens, des Métis, des esclaves noirs, hein, qui vont faire les vachers, donc ils vont monter à cheval, parce que, évidemment, pour aller, quand il s'agit de faire le rodeo, du verbe espagnol rodear, encercler le bétail, le conduire et l'enfermer dans des enclos, hein, deux fois dans l'année. Pourquoi faire? Une fois pour marquer des insignes du propriétaire, des marques à feu, et une autre fois pour l'abattre les spécimens qui sont jugés à point pour être abattus. L'abattage d'ailleurs du bétail à l'époque coloniale du Mexique se fait surtout, essentiellement, pour les peaux et la graisse, hein, le suif et l'extraction des suifs de la peau. La viande, elle est mangée sur place, mais bon, comme elle n'est pas conservable, en général, elle est plutôt... c'est pas ce qui fait la valeur de marché. Ce qui fait la valeur de marché, c'est la graisse et la peau. On prendra l'importance de la graisse et de la peau dans les sociétés, justement, de impérialistes que sont les sociétés espagnoles et portugaises. Alors à ce moment-là, bon, les Indiens montent à cheval par la force des choses. Alors, certains le font dans la clandestinité, d'autres quand même, les propriétaires demandent des licences, hein, à la vice-royauté pour autoriser leurs Indiens à monter à cheval. Ces licences sont souvent, la plupart du temps d'ailleurs, accordées, et de fait, l'interdiction n'est pas respectée, les Indiens montent à cheval. Ils montent à cheval, ils font des rodeos, c'est eux qui font, les Indiens, les Métis, toutes ces basses castes, hein, dans la société hiérarchique de la Nouvelle-Espagne. Et c'est eux qui réunissent le bétail, c'est eux qui le marquent, c'est eux qui le manipulent. Et c'est à ces moments-là que se créent des techniques qui ne viennent pas d'Espagne. Que se créent avec le bétail des techniques qui ne viennent pas d'Espagne. Qui sont des inventions américaines, méso-américaines en l'occurrence. Tout d'abord, c'est l'usage du lasso. L'usage du lasso comme instrument premier de l'élevage américain. L'élevage espagnol d'origine n'utilise pas, utilise la corde, mais n'utilise pas le lasso comme arme dynamique pour attraper, pour piéger, le lancer de lasso. Ça, c'est pas en Espagne. En Espagne, les vachers sont armés d'une pique. Et au Mexique va se développer le lasso comme un déplacement du piège de corde, du collet de chasse que les Indiens utilisaient déjà avant la conquête, qui devient un collet dynamique en quelque sorte, qui est lancé du haut du cheval et qui va entraîner le développement de la selle mexicaine elle-même, qui est une selle qui part vraiment de ces gens-là, de ces vachers, de ces gens de basse condition, qui n'ont pas le droit d'utiliser une selle au départ, quand ils montent, la selle est réservée aux aristocrates, et qui vont, par la force des choses, utiliser des selles et fabriquer des selles. Et ces selles vont être fabriquées sur la base du bât qui sert à charger les mules et les ânes. C'est à partir du bât, d'un bât de bois, que va se construire la selle mexicaine, la selle américaine. Et étant donné que la technique d'usage du lasso implique que quand on a lancé un lasso pour attraper une bête aussi méchante qu'un bœuf élevé à l'état quasi sauvage, eh bien, une fois, c'est bien joli d'attraper la tête, mais une fois qu'on l'a attrapé, il faut quand même le tenir. Il ne faut pas se faire emporter. Si vous le tenez avec les mains, le taureau, il vous emporte par-delà le cheval et vous traîne sur 500 mètres facilement. Donc il faut qu'il y ait une force de résistance. Donc on va sur cette selle à bas, cette selle qui sert à charger les mules, va se développer le pommeau devant, qui sert à enrouler l'extrémité du lasso à la selle pour faire résistance et pouvoir maintenir le bétail capturé comme ça avec le lasso. Ces techniques-là, encore une fois, sont d'origine américaine. En Espagne, la selle des vachers andalous est une selle quasi conforme au modèle arabe, qui a été diffusée au moment de la domination arabe sur la péninsule ibérique, et qui est une selle avec des arçons sans pommeau. Pour la bonne raison qu'on n'utilisait pas le lasso. Donc il y a le lasso. Alors le lasso va se développer non seulement comme une technique d'élevage et de maîtrise de conduite du bétail, mais également comme un jeu. Et là il va y avoir toute une codification du village du lasso qui va se traduire dans les jeux d'arène d'origine mexicaine et qu'on va retrouver ensuite dans toute l'Amérique. Et puis il y a une autre génialité d'origine mexicaine qui est la monte du taureau. La monte du taureau, alors là-dessus, puisqu'on est au point technique, j'ai un débat avec une collègue et amie mexicaine, Ana Cristina Ramírez Barreto, qui est un peu trop influencée par les lectures postmodernistes, à mon sens, me dit « Non, mais ça, c'est bidon ce que tu dis, c'est pas les Indiens pour se moquer, c'est pas comme une forme d'inversion, de dérision. » Moi, ce que je dis, c'est une forme d'inversion de la tauromachie et de l'équitation. De monter un taureau pour jouer avec. C'est une technique impensable dans les tauromachies européennes, sinon à titre dérisoire. On voit ça dans les corridas dites charlotades, les corridas comiques, les corridas avec des clones toreros. Voir ça, mais monter un taureau dans les formes de tauromachie européenne entre la Camargue et le fin fond d'Andalousie, c'est une forme considérée comme dérisoire et totalement exclue de ce qu'on considère comme être le sérieux tauromachique. Or là, ça devient la forme majeure. La forme majeure est dramatique. Monter un taureau, c'est à la fois, du point de vue de l'indigène et du métis, dévalorisé, marginalisé dans cette société de caste. C'est une manière de dérision de la prétention du caballero espagnol. En même temps, c'est la confusion du taureau et du cheval. C'est considérer le taureau comme un cheval. Et c'est une forme qui est presque absurde, parce que c'est un jeu qui n'a aucun sens. Comment dirais-je ? Autant le lasso, on voit qu'il vient d'une pratique utilitaire, autant monter le taureau, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit, ça conduit même pas, comme la corrida espagnole, on pourrait dire, bon, il y a la tradition des abattoirs. C'est vrai que les toreros, la tradition du torero à pied à Séville vient en grande partie des abattoirs. Donc c'était au départ, si vous voulez, l'action de torer un taureau, d'affaiblir un taureau pour pouvoir le tuer, avait une origine utilitaire. Là, il n'y a aucun utilitarisme là-dedans, c'est purement gratuit. Alors ma collègue Anna Cristina Ramirez Barreto me dit oui, non, mais elle me dit non, c'est qu'en fait, comme ils mettaient les taureaux à terre avec le lasso, eh bien, l'occasion était trop belle pour monter dessus. À mon avis, c'est un peu court, parce que les Andalous, les vaches Andalous, ils faisaient exactement pareil avec les piques. Quand il s'agissait de marquer, de castrer ou de tuer du bétail, dans les grands latifones de Cadiz, de Jerez ou de Séville, eh bien, il les poursuivait avec la garrocha, avec la pique, et d'un coup de pique sur la croupe, il renversait l'animal qui était ensuite saisi, et on faisait ce qu'on voulait avec, enfin, le maîtriser comme ça. Tandis qu'au Mexique, eh bien, il monte dessus. Donc, bon, évidemment, on peut donner les interprétations qu'on veut, mais il me semble que c'est une interprétation qui vaut la peine. En tout cas, mon idée, c'est que ça s'est fait ici, enfin au Mexique, en Amérique, ça ne s'est pas fait en Espagne. Donc, il y avait une raison, et je crois que cette raison, n'en déplaise aux postmodernisants, cette raison est culturelle. Alors, le problème qu'on peut se poser, c'est de dire, ouais, bon, ben, enfin, c'est bien joli de parler des taureaux et des chevaux et tout ça, c'est un peu obsessionnel, tout ça, bon, mais que ça a à voir avec les Indiens, parce que les Indiens ont affaire de ça, c'est pas les Indiens, c'est pas les vrais Indiens, ça, c'est les pauvres Indiens qui sont métissés, et ils sont, comme dirais-je, en quelque sorte souillés, hein, par l'influence européenne, et c'est plus des vrais Indiens, donc à partir de là. Donc, est-ce que les Indiens existent quand tout est métissé? Est-ce que les Indiens existent quand ils font de la tauromachie, quand ils font de l'élevage, quand ils montent à cheval, voilà. Alors le problème, c'est quand on pose des problèmes en ce terme-là, c'est qu'on est dans l'essentialisme. Et en étant dans l'essentialisme, on peut faire l'histoire, en quelque sorte, de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, à partir des idéologies essentialistes. D'abord, le premier essentialisme, c'est évidemment le délire de la bureaucratie de la Nouvelle-Espagne, les castes dont je vous ai parlé, hein, à partir du moment où les Espagnols arrivent, c'est la grande originalité d'ailleurs des colonisations ibériques, c'est que les colonisations ibériques, sous l'égide des, il faut le dire, hein, du clergé catholique, ces colonisations prônent le métissage. Enfin, se base sur le métissage, favorise ou n'empêche pas, ou favorise, oui, ou laisse libre cours au métissage, hein, ce qui va être très différent avec les colonisations protestantes de l'Amérique du Nord, où là, au contraire, il va y avoir vraiment une opprobre, hein, jetée sur le métissage comme chose d'absolument abominable. Alors, en même temps, les Espagnols sont embêtés avec cette histoire de métissage, parce qu'avec l'idéologie puriste hispanique, l'Espagne du XVIe siècle, c'est pas très rigolo quand même, hein. C'est l'Inquisition, bon, c'est l'idéologie de la pureté de sang, hein. C'est les certificats de pureté de sang qu'il fallait fournir quand on était soupçonné de judéité, que donc il fallait montrer qu'on n'était pas juif, et qu'on avait un certificat. Donc l'obsession de la pureté de sang, hein, l'idéologie du sang en Espagne, c'est pareil, en Portugal c'est pareil. La caste, c'est ça, c'est une idéologie puriste. Donc c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Donc si les moines franciscains, dominicains et jésuites défendent les Indiens, empêchent la destruction complète des Indes, et Las Casas et tout ça, donc d'une certaine façon défendent le métissage parce qu'ils disent les Indiens sont comme nous, sont nos frères, ce sont des créatures de Dieu, ce sont des humains. Simplement, ils ont été trompés par le diable. Il faut leur apporter la bonne parole pour leur faire comprendre ce que c'est que la vraie religion, que la vraie spiritualité, tout ça. Mais à partir de ce moment-là, on admet que, bon, ben, il faut les aider, donc il faut les épouser, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une ouverture, au métissage. Mais ça gêne l'idéologie puriste hispanique. Donc, on va développer tout un système de caste qui relevait le système des castes en Nouvelle-Espagne d'un processus d'animalisation, surtout plus on allait vers les castes basses. Vous aviez dans les castes hautes l'espagnol qui venait de la colonie, le créole, le criollo, c'était le fils d'espagnol né au Mexique. Et alors ce terme de créole, très important, on n'en a pas du tout d'ailleurs la même acception en France. En France et dans les Antilles, le créole c'est plutôt le métis. Au Mexique c'est pas du tout, c'est le blanc mexicain, le blanc né au Mexique. Criollo, ça vient du portugais, criollo, qui veut dire c'est l'esclave élevé dans la maison, né et élevé dans la maison. Donc c'est le fils d'esclave né dans la maison. Il y a donc cette idée d'étranger rapporté, inférieur, né dans la maison. Bon, donc le créole, fils de mexicain, de fils d'espagnol, va se trouver dans une catégorie inférieure, l'espagnol né en Espagne. Première, là, c'est la plus grande erreur de la, ils en ont fait plein, mais alors celle-là, du Mexique colonial, c'est d'assigner un statut d'infériorité aux descendants des Espagnols venus d'Espagne. Et puis alors, plus on va vers le bas, et plus on a des métaphores animalières pour décrire les catégories métisses, les catégories intermédiaires. Plus on est métissé, plus on est animal, en quelque sorte. Les lobos, les loups, les coyotes, les bossals. Les bossals, c'est de l'animal qui vient de la jungle. Le bossal, c'est le... C'est l'esclave qui est fraîchement débarqué, qui vient directement de la jungle. Le mulatto, sambaigo, etc. Toute une série de catégories comme ça qui sont toujours, dont on trouve d'ailleurs des équivalents dans les robes des chevaux ou des taureaux, les robes plus ou moins fauves, etc. Bon, voilà. Et par opposition, les catégories pures, il y en a deux, c'est l'espagnol et l'indien. Voilà. Alors, on voit que l'animalisation de la société mexicaine, enfin novo-hispanique, renvoie à l'élevage et à la métaphore, en même temps, à la métaphore que l'élevage extensif espagnol, ibérique, hein, que cet élevage-là déploie avec les concepts de bravoure et de noblesse. C'est-à-dire que dans l'élevage extensif en Andalousie se développe l'idée que l'animal, le taureau qui va servir dans les corridas chevaleresques du XVIe, XVIIe siècle, hein, où c'est la noblesse qui, dans les fêtes royales, la noblesse, les jeunes cavaliers de la noblesse qui vont combattre à cheval les taureaux comme une démonstration de force militaire, hein, Et le cheval et le taureau sont associés à la noblesse. Le taureau, il paît sur les grands domaines, on va le chercher dans les espaces sauvages, qui sont des espaces réservés à la chasse à courre des nobles. Donc c'est vraiment les grands espaces associés à la noblesse, par opposition à la petite paysannerie, hein. Et donc il y a tout cet imaginaire-là qui est associé à certains animaux, au cheval, au taureau, et à l'idée de noblesse. Par opposition, deux extrêmes, par opposition, je vous ai parlé de la petite paysannerie. La petite paysannerie, c'est la mansedumbre, hein, c'est-à-dire la domesticité, la domesticité qui est assignée au bœuf domestique, à la vache laitière, etc., et à la petite parcelle paysanne, la petite parcelle clôturée, les petites terres, les minifundiums, hein, c'est la mansedumbre. Et au contraire, la fieresa qui renvoie à l'extension infinie du campo, et de la terre non clôturée où on trouve les animaux sauvages sur lesquels les nobles prétendent avoir un privilège à partir de la chasse à courre et de la tauromachie lorsqu'elle est représentée sur la scène des villes en fête. Alors, ce qui va se passer finalement en Amérique, dans toute l'Amérique, c'est que c'est les Indiens qui vont intercéder dans cet espace assigné à la noblesse, dans cet espace sauvage où se trouvent les animaux sauvages, où se trouvent le taureau et le cheval sauvages qui paissent en liberté, qui marronnent, qui se reproduisent en liberté, etc. Et les Indiens vont interférer, ils vont, parce qu'on a des Indiens chasseurs qui d'abord sont sur leur pays, il faut bien le dire, et puis qui vont intégrer ces animaux, le taureau et le cheval, qui vont les intégrer dans leur à la fois dans leur cosmogonie et dans leur si je puis dire, cheptel sauvage, hein, dans leur proie. Donc, en réalité, si l'Indien se voit assigné aux castes basses, hein, puisqu'on lui refuse l'idée de monter à cheval, mais en réalité, la réalité, c'est que on a besoin d'une part des Indiens domestiques, des Indios bravos, de la petite paysannerie, là. On a besoin dans le centre du Mexique pour conduire les troupeaux. Et puis lui-même, l'Indien, a besoin de l'élevage extensif pour prolonger son propre univers cinégétique et rituel. C'est le cas dans le nord et l'ouest du Mexique où ces Indiens, nomades et chasseurs, vont intégrer le cheval et le taureau dans leur proie de choix. Alors, donc la société des castes. Et le métissage en même temps. Alors le métissage va donner lieu à une idéologie nationaliste, une idéologie indépendantiste, l'idéologie des créoles, justement. Quand je vous disais que c'était la grande erreur de la vice-royauté espagnole d'avoir condamné les créoles, c'est-à-dire les blancs nés au Mexique, à une place secondaire par rapport aux Espagnols qui avaient des privilèges sur eux, alors que c'était leurs parents. Grave erreur, c'est qu'ils vont évidemment nourrir une idéologie indépendantiste. Et contre la tyrannie de l'espagnol, ils vont affirmer la généralité du métissage. C'est-à-dire, ils vont ce discours-là, le discours, l'idéologie créole du XVIIIe siècle, influencée par les lectures des Lumières et tout ça, c'est-à-dire, nous sommes mexicains et nous sommes tous métis. Hein. Nous ne sommes pas espagnols. Nous sommes indigènes, au sens, nous sommes d'ici, nous sommes des Mexicains, nous sommes de la nation mexicaine. Ça nous rattache à la terre américaine et ça nous donne des droits sur les Espagnols qui sont des intrus et qui sont indésirables. Et donc c'est en quelque sorte un retournement métis de l'essentialisme racial hispanique. C'est-à-dire nous sommes la race mexicaine. La raza. Hein. Il y a une idéologie de la race mexicaine. Mais c'est un concept de la race qui renverse le concept puriste de la race hispanique. C'est-à-dire, c'est une race métisse. C'est complètement contradictoire dans l'idéologie hispanique. C'est une race qui est le produit de l'agglomération des castes, hein, de cette société de caste, de ce qu'il y a de plus bas. Mais là où c'est quand même intéressant, même si ça fait froid dans le dos, c'est que nous sommes tous des Mexicains, nous sommes tous des Indiens, nous descendons tous de Moctezuma, en fait, c'est ce discours indépendantiste, hein. Nous ne sommes pas espagnols, mais le noir, il va disparaître de cette construction idéologique. Alors que quand même, les ethnies africaines constituent la troisième composante de la population mexicaine, et en tant qu'esclaves, évidemment, ils vont être plutôt mis de côté par l'idéologie indépendantiste. C'est-à-dire, il y a l'idéologie indépendantiste, c'est la race mexicaine s'est forgée dans un creuset, hein, où on a mélangé la noblesse des Indiens avec la noblesse des Espagnols, et ça a donné, nous, les Mexicains. Les Noirs, on ne part plus. Alors, ce discours qui exalte le métissage, qui est un discours en fait à dominante blanche, hein, qui sont des discours des classes lettrées blanches, et qui, vous voyez, des gens qui sont tout à fait blancs et qui disent qu'ils descendent de Moctezuma, c'est peut-être un peu à rien, mais surtout qui exclut le noir, ou alors qui stigmatise complètement le noir, hein, comme le jésuite Clavijero, qui est un des théoriciens de l'indépendantisme du 18e, et qui, au moment où il parle des Noirs, dit qu'il n'y a rien de plus affreux que des êtres avec... Marqué, Voltaire dit à peu près la même chose, hein, avec des gens qui ont des poils de mouton sur la tête, qui fait des trucs abominables. Mais voilà, ça se joue entre les Blancs et les Indiens. C'est vraiment ça. Parce qu'il s'agit, principalement, pour ces Blancs, de se rattacher à la terre américaine. Donc les Noirs sont considérés finalement comme des intrus, au même titre que les Espagnols, mais en pire parce que ce sont des esclaves et donc ils sont encore plus méprisables de leur point de vue. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette élite blanche va reproduire la métaphore hispanique du bétail, c'est-à-dire associer le bétail et les hommes, la noblesse du bétail, enfin les taureaux, les chevaux, mais en brouillant les catégories puristes d'origine espagnole. On va exalter l'américanité du bétail, en quelque sorte. Donc il faut, si vous voulez, que ce bétail, pour qu'il soit valorisé, il faut qu'il soit américain. Et donc c'est bien le bétail créole, c'est-à-dire le bétail né en Amérique, le bétail qui s'est ensauvagé, le bétail qui est issu de la terre américaine, qui va devenir valorisé, et valorisé à travers une série de croisements. Alors dans le sport taurin, tauromachique de l'élite mexicaine, qui est la charreada, donc je traite dans ce livre-là, qui est considéré aujourd'hui comme le sport national mexicain, qui se formalise au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à partir des pratiques des vachers, donc des vachers métis et indiens des grands domaines, et qui va devenir paradoxalement un sport d'élite, hein, qui va être repris après la révolution mexicaine des années 10, qui va être repris dans les villes comme un sport d'élite par justement l'aristocratie créole mexicaine qui a été dépossédée d'une partie de ses terres par la révolution sociale, et qui va reproduire son idéal de grands espaces, d'élevage extensif, à travers le jeu de la charreada, le sport national, qui va devenir le sport national, et qui est un jeu d'arène qui reproduit des scènes de l'élevage telles qui se déroulaient au 19e siècle. Alors, dans la pratique de la charreada, les cavaliers charros, qui sont en tout cas dans la hiérarchie pour la plupart issus de l'élite, de l'élite créole, vont privilégier un type de cheval qui est un cheval justement métis, mais un métis de luxe, c'est-à-dire un mélange, le cheval quarto de milla, le quarter horse américain, qui est un mélange de pur sang anglais et de cheval créole, justement, c'est-à-dire de cheval mexicain. On va aller très loin dans ce souci de naturaliser l'animal, d'en faire un animal américain. On va aller jusqu'à créer, dans les années 80 du XXe siècle, jusqu'à créer un cheval aztèque, ce qui est absolument, évidemment, historiquement une aberration, puisque les Aztèques ne connaissaient pas le cheval. Mais c'est la maison d'Omec, d'ailleurs, une maison andalouse, qui va créer au Mexique le cheval dit aztèque, qui est le résultat d'un savant croisement entre cheval créole et chevaux andalous, enfin, et le cheval aztèque, prétendument, le discours du cheval aztèque, c'est le cheval idéal pour la charriade, et c'est le cheval qui se rapproche le plus du cheval de Cortés. C'est ce fantasme de Cortés est venu en Espagne la première fois, le premier voyage de Cortés avec 20 chevaux sur le bateau, 20 chevaux andalous, et ce cheval-là qu'il s'agit de retrouver. Voilà. Donc, et ça, c'est le vrai cheval américain. Vous voyez comment l'idéologie arrive à construire des paradoxes pour finalement créer de l'identité. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce souci d'associer le cheval créole, donc le cheval américain qui s'est adapté aux conditions d'élevage du continent américain, etc., et le cheval européen, bon, pur sang anglais, pur sang andalou, dans cette recherche de métissage dans l'élevage, eh bien, cette recherche correspond en fait de près aux stratégies matrimoniales des classes possédantes mexicaines, qui sont associées à la charriade et à l'élevage de taureaux. J'ai pu voir des généalogies, j'ai pu étudier des généalogies où on voit bien qu'à chaque génération, il y a à la fois une consanguinité très forte des mariages entre cousins germains qui se reproduisent à chaque génération. Et en même temps des apports extérieurs réguliers avec des étrangers valorisés, des Européens, surtout espagnols, anglais, écossais, allemands, italiens et des États-Unis. Donc à chaque génération jusqu'à aujourd'hui, on voit dans ces familles-là, ces familles d'éleveurs de grands domaines, on voit toujours une dualité en fait entre une forte consanguinité, c'est-à-dire une reproduction à l'andalouse, en quelque sorte, où on se marie entre cousins, comme dans la vieille noblesse et tout ça, et des apports d'origine étrangère. Donc, si vous voulez, il y a une homologie entre les façons de concevoir l'animal, le cheval, et la façon de reproduire les familles. Alors là, c'est paradoxal, comme on voit comment on a un mélange, une combinaison de l'idéologie hispanique de la pureté et d'une idéologie du métissage. Ça va jusqu'à toute une série de paradoxes, parce que dans la charriada, dans le monde de la charriada, le sport de la charriada est un sport d'homme. Ce sont des hommes, des éleveurs, des vaqueros, tout ça, les beaux chapeaux, les beaux habits, ça. Mais les femmes ont quand même leur place. Mais elles ont une place évidemment marginalisée, c'est très machiste comme milieu. Et surtout, elles ne font pas ce que font les hommes. Elles font, c'est la grande différence entre le rodéo nord-américain et une des grandes différences, et le rodéo mexicain qu'est la charriada, c'est que dans le rodéo américain, les femmes font la même chose que elles peuvent faire la même chose que les hommes, tandis que dans la charriada, c'est exclu. Les femmes, le rôle des femmes, c'est ce qu'on appelle l'escaramuza. L'escaramuza, c'est un ballet équestre, où on a des jeunes filles nubiles, vêtues de robes longues dans un style européen et qui se livrent à des ballets équestres qui n'ont pas du tout de contact avec le taureau. Là, il ne s'agit pas d'attraper les taureaux au lasso, tout ça, ils n'utilisent pas le lasso. Et d'ailleurs, elles sont sur une selle, sont montées sur une selle qui n'est pas la même, qui n'est pas la selle à pommeau qui permet de relier le lasso, comme je vous l'ai dit, pour attraper les bêtes, mais qui est une selle de type side saddle, de selle de côté, qui permet de monter en Amazon. Et donc les filles doivent monter en Amazon. Et ce sont des filles nubiles, c'est des jeunes filles de 15 à 20 ans maximum, qui arrêtent de pratiquer le plus souvent quand elles se marient. Hein. On considère que la pratique de l'escaramouche est incompatible avec l'enfantement. Et la selle elle-même, la selle des jeunes filles, qui est censée garantir leur pureté, parce qu'au Mexique, finalement, dans ce milieu-là de l'élite, s'est maintenue une vieille croyance que la monte à califourchon était dangereuse pour les femmes, parce qu'elle menaçait leur hymen. En même temps, elle pouvait conduire à une infertilité, en fait, toute une série de croyances qu'il y avait autrefois, mais qui s'est maintenue dans le milieu de la charreada. La femme ne doit pas monter en califourchon, c'est très inconvenant, c'est très incorrect. Et les femmes montent, les filles, hein, elles montent sur la selle de côté, elles montent en Amazone, sur une selle que l'on appelle la albarda. Et la albarda, en espagnol, ça veut dire le bas. Et donc, on retrouve cette origine, finalement, de la selle à bas, à partir du bas, cette origine mexicaine de la selle, mais seulement pour la selle des femmes. Et l'albarda, le bât, c'est quand même ce qui permet de charger la mule ou l'âne, c'est-à-dire un sous-cheval ou un cheval hybride. Hein. Donc un animal hybride, un animal métis, au sens ignoble du terme. La mule, c'est l'animal de. La mule et l'âne sont les animaux des Indiens. Il y a comment dirais-je, un dicton charro. Qui est d'un humanisme absolu et qui dit l'âne pour l'Indien, la mule pour le mulâtre et le cheval pour le caballero. Donc ça c'est l'idéologie charre, hein. On sépare les catégories sociales selon les catégories animales. La mule chez les Indiens Huichol d'aujourd'hui qui se sont convertis à l'élevage depuis le XVIIIe siècle et chez lesquels le taureau est devenu un animal majeur, parce que c'est le principal animal du sacrifice, chez les Indiens Huichol, la mule est l'équidé majeur, parce que sur les terrains montagneux où vivent les Indiens Huichol, dans la Sierra Huichol, il vaut mieux avoir une mule, une bonne mule, qu'un cheval, beaucoup moins efficace sur ces terrains accidentés. Et la mule a une valeur très forte. Et là, ici, dans la charriada, ce qui est associé à la mule, ce qui est associé à l'âne, finalement, c'est la selle, l'albarda, qui, en quelque sorte, permet, assure symboliquement la défense de l'intégrité, de la vertu des jeunes filles de bonne famille prêtes à marier, que sont les escaramuzas. Parce qu'il me reste comme. Alors, donc ces idéologies du métissage et en même temps ces idéologies du métissage qui confondent un petit peu, qui confondent la raison puriste classique occidentale et en particulier hispanique. Et qui fait que longtemps, dans les études des Indiens d'Amérique en général, on a privilégié en ethnologie une position un petit peu puriste, justement, influencée finalement par cette idéologie, la position de l'indigénisme, en quelque sorte. Chercher l'Indien, quoi. Hein. Et le Mexique apparaît de ce point de vue-là comme une terre très problématique parce que c'est à la fois le laboratoire du métissage. Hein, dès les premiers temps de la conquête, on a affaire au métissage. Cortés lui-même, hein, qui avait pris une interprète que les Espagnols avaient appelée Doña Marina, qui s'appelait la Malinche, hein, et qui était sa maîtresse. Il l'a engrossé et il a donné la, il a donné la, il a ouvert la voie au métissage, en quelque sorte. Les Mexicains d'aujourd'hui disent encore, c'est aussi un dicton mexicain, « Somos todos hijos de la chinga », nous sommes tous les fils de la chingada. La chingada, c'est un terme mexicain, mexicano-mexicain, qui signifie à la fois la, la pute, la salope, la métisse, la, la dévergondée, la, toutes sortes de choses. Ça, et chinga, en même temps, c'est un terme admiratif. Mais c'est d'abord la Malinche. C'est cette, cette indienne hein, qui s'est donnée à Cortés et qui a donné à Cortés des enfants. Et donc, c'est cette idée que nous sommes tous des produits de, cette, de cet accouplement. Et donc, c'est à la fois ça. Donc, c'est, de ce point de vue-là, du point de vue du purisme, c'est une terre impure par excellence. C'est une terre métisse. Hein. Et en même temps, c'est le Mexique qui, aujourd'hui encore, compte une cinquantaine de groupes linguistiques toujours observables, qui en comptaient presque 200, je crois, au moment de la conquête. Mais donc cette fascination de l'ethnologue pour le vrai indien, on va dire, bon, mais, ouais, tout est métissé, c'est pas bien, et tout, il faut aller chercher le vrai indien, il y en a, il y a des groupes linguistiques, mais on a toujours le, l'intégrité de ces groupes ethniques indigènes qui est menacée par le métissage. Alors, alors là, il y a problème. Il y a problème, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher quand on va aller étudier les Indiens, c'est on va chercher la vraie tradition des Indiens. Alors il faut essayer de mettre de côté ce qui est trop fortement ibérique. Alors ce qui est trop fortement ibérique, c'est le taureau et le cheval, par exemple. Ça, c'est le truc, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Par contre, la religion, alors je sais pas pourquoi. Mais toujours, l'ethnologie classique hein, fait grand cas des rites religieux chrétiens transformés par les Indiens. On va faire valoir la pureté du carnaval, d'un carnaval chez les Otomis, par exemple, parce qu'il est pratiqué à l'ancienne, et puis la dégradation de la fête aujourd'hui, parce que finalement, l'américanisation, on voit le carnaval qui s'américanise avec l'influence de l'émigration, de l'argent, etc. Et tout se perd. Et vous voyez, mon pauvre monsieur. La semaine sainte considérée comme un point culminant chez les Huichol, par exemple, dans l'ouest du Mexique, les grands spécialistes des Huichol intègrent la semaine sainte hein, dans le cycle rituel du costumbre, de ce que les Huichol appellent le costumbre, c'est-à-dire le cycle festif qui correspond à la célébration de la. De la cosmogonie Huichol. Alors, la semaine sainte, c'est quand même paradoxal. Bon, il faut dire que la semaine sainte des Huichol est spéciale. Hein. J'ai compté jusqu'à une quarantaine de bœufs sacrifiés le samedi saint devant l'église de San Andrés Coamiata où j'ai enquêté. Et ensuite, les statues des saints et des Christ, parce qu'il y a deux Christ, hein. Il y a masculin et féminin, donc la dualité mexicaine qui est reproduite à travers le Christ. Et on badigeonne du sang des taureaux les statues des saints. Donc, bon, je crois pas que ça plairait beaucoup à notre ami, comment il s'appelle déjà, Benoît XVI. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est le costume. Ça, c'est pas un problème que. C'est curieux. Pourquoi? C'est plus noble, on dirait. On dirait qu'il y a quelque chose de plus noble, parce que c'est la religion, parce que donc. Bon, voilà. Mais le taureau, non, ça c'est un truc, ça va pas quoi. On a mis beaucoup de temps à considérer que le bœuf était important chez les Huichol, avec quelque chose de Huichol justement, bien que ce soit d'origine hispanique. Alors il y a ça. Et puis quand les mêmes Huichol organisent une fête patronale et que dans cette fête patronale qui n'est pas considéré comme partie du costumbre, je sais pas pourquoi, la fête patronale, non, c'est pas le costumbre, parce que ils font comme les blancs, enfin ils font comme les métis, ils imitent les métis, ils font une fête, alors ils font un bal, ils font la couronnement de la reine, ça sûr c'est à voir, et ils font une charreada, à leur façon, hein, ils font une charreada, ils invitent tous les métis des environs à participer à leur charreada, ils imitent la charreada, et ils se servent en quelque sorte de leurs voisins métis, de tous les fermiers métis qui sont autour d'eux, et pour faire finalement un jeu de charreada. Et ce personnage du charro, est devenu partie du folklore des Huichols. Il est entré dans leur folklore et la cosmogonie parce que précisément, le Charro, c'est le voisin. Et le voisin, Teiwari, en Wirarica, en idiome Huichol, Teiwari, le voisin, c'est un personnage qui est à la fois craint et en même temps qui fascine, parce que c'est le voisin, le Teiwari, assimilé au blanc, au monde occidental en général, c'est l'argent, il incarne l'argent, il incarne le bétail, le beau bétail, parce que le bétail des voisins est plus beau que le nôtre, le Huichol, parce que le nôtre il est maigre et tout ça, les voisins ils ont des beaux bétails, ils ont du bétail charro, et le charro est devenu, le personnage du charro est devenu dans certaines parties de la Sierra Huichol, est devenu un thème folklorique important. C'est un véritable décepteur, ce qu'on appelle un trickster, un décepteur. C'est un personnage qui est à la fois maléfique et bénéfique, hein. Une espèce de lutin, un elfe, un personnage incontrôlable, et qui est associé aux puissances extérieures qui différencient les Huichols du monde extérieur, mais en même temps que les Huichols aspirent à intégrer en leur sein, parce qu'ils en ont besoin pour renouveler l'énergie de la société. Et donc, de la même façon qu'on adopte l'élevage pour sacrifier des taureaux aux divinités Huichols, eh bien, on adopte la charreada à la façon Huichol, et on attire les Teiwari, les voisins d'à côté, les Charros, qui sont toujours associés, qui sont toujours des paysans qui pratiquent la charreada, qui sont d'une manière très, très modeste, hein, pas du tout comme les riches des villes qui font la charreada, mais ils ont de tradition charra, c'est des vaqueros, et ils viennent animer la charreada au village, et pour au village des Huichol, et pour se faire, ils payent. Et les Huichol les font payer. Et pourquoi ils payent ? Eh bien, ils payent pour payer de leur personne. Hein. C'est une manière, de, en même temps, d'entretenir leur prestige que de venir payer pour participer à la charreada des Huichol. Ils payent aussi pour le couronnement de la reine. C'est toujours à des Teiwari qu'on demande de couronner la reine. Et ils payent des sommes considérables. Il y a beaucoup d'argent qui arrive, et c'est les voisins, les Teiwari, qui viennent apporter de l'argent pour la fête Huichol. Et là, j'ai vu circuler des grosses coupures là, de 500 pesos, mais de tous les côtés, et essentiellement apportées par des Blancs. J'ai vu une chose extraordinaire également, c'est qu'il y a eu une lutte de prestige qui s'est jouée autour du rodéo, hein, entre les deux candidats aux élections de la municipalité de Mesquitic, qui est la ville, c'est un village de 1500 habitants, mais qui est un village métis de Charros, hein, qui a la tutelle administrative de trois communautés indigènes Huichol, des alentours. Et donc, l'élection dans cette municipalité-là, dans la commune, 70% de la population est Huichol. Les Huichol y votent. Et ils votent, c'est un peu comme en Corse, hein, vous voyez les villages entiers qui votent pour un même candidat. C'est les chefs de lignage qui décident pour qui ils vont voter. Et évidemment, c'est ceux qui ont le plus payé leur personne dans la Sierra qui vont emporter l'élection. Et donc, on voit chaque fois les candidats métis qui viennent faire campagne dans la Sierra. Et la meilleure façon de faire campagne, c'est de payer. Et là, en l'occurrence, il y avait la lutte entre deux candidats des deux principaux partis mexicains. La droite et la soi-disant gauche, il y en a un qui a payé le couronnement de la reine, il a donné 4000 pesos, $350, le salaire moyen d'un ouvrier, hein, salaire mensuel, pour couronner la reine, tandis que son concurrent, qui est un charro, brillait dans l'arène, hein, pendant la charreada Huichol, brillait dans l'arène, à coup de 1000 pesos, chaque fois il donnait 1000 pesos pour passer, et il, avec un superbe cheval, chaque fois il se livrait à un seul jeu de la charreada, qui est le coleo, où on poursuit un taurillon à cheval pour le renverser en tirant sur sa queue. Et là, c'était le plus brillant dans l'épreuve. Et donc, il y a eu cette lutte de prestige entre l'un qui a couronné la reine, qui payait à boire à tout le monde, et l'autre qui, du haut de son cheval, faisait briller ses armoiries tout en payant chaque fois pour passer. Et tout ça, ça fait des sommes d'argent considérables. Et l'argent, comme le bétail, finalement, finalement, cette tradition indigène est étrange parce qu'elle renvoie finalement aux origines presque étymologiques du bétail, hein, du pécom, hein, le pécunier, hein, le bétail, c'est l'argent. Et le bétail, le sacrifice du bétail, et le fait que les Huichols passent leur année à sacrifier, à faire des pèlerinages, à dépenser beaucoup d'argent parce que ils sont constamment poursuivis par des obligations tyranniques de leur divinité et qui sont dont les ordres sont donnés par les chamans, hein, à travers les chamans, les sages de la communauté, et qui disent il faut que tu ailles sacrifier deux taureaux à la semaine sainte, il faut que tu ailles en pèlerinage à tel endroit, et tout ça. Pendant ce temps, le gars, il travaille pas, il dépense de l'argent, et tout ça. Et donc, il y a toute une théorie de la dépense, hein. Il faut dépenser, il faut sacrifier pour être Huichol. Et donc, on a besoin de l'argent des Blancs pour que l'univers Huichol, de l'argent et du bétail, hein, que l'univers Huichol continue d'exister. Ça va très loin, puisque dans ce cas-là, les Huichols sont persuadés que il n'y a pas plus ethnocentrique, hein, que les Indiens d'Amérique, je crois, mais les Huichols, en l'occurrence, sont persuadés que c'est leur rite qui permettent non seulement la continuité du monde Huichol, mais la continuité du monde tout entier. Hein. C'est eux qui font pleuvoir, etc. Donc ils sont persuadés de l'importance de leur action. Et dans cette action de première importance, l'animal, le taureau, en l'occurrence, est au centre de tout. Hein. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, cette fascination ancestrale pour l'étranger et pour les signes de l'étrangeté, donc je vous ai fait la généalogie très rapidement, mais si vous voulez des détails, évidemment, vous avez un livre, là, vous pouvez l'acheter, je crois, etc. Bon. Vous pouvez le lire, le détail, mais de mon analyse, mais c'est il y a une fascination pour l'étrangeté qui remonte au temps préhispanique, hein, et qui fait que les Indiens ont pu intégrer le métissage, ils ont pu intégrer les animaux hispaniques, européens, ils ont pu intégrer la religion chrétienne même et la transformer. Chaque fois, tout est transformé. Hein. Mais en faire, non pas subir une acculturation, non pas subir une déperdition d'identité, comme le voudrait la théorie puriste ethnologique, en disant ouais, ils sont métissés, ils sont plus comme avant. C'est pas... Non, au contraire, cette intégration du métissage, cette intégration de l'altérité suppose une capacité justement de s'accaparer l'altérité dans un univers propre. Et donc, en fait, cela tient à des propriétés de culture mésoaméricaine qui sont des cultures de la superposition, qui sont des cultures de l'amalgame, qui sont des cultures de l'hybridation. Déjà, avant que les Espagnols arrivent, hein, tous les ethno-archéologues et les ethno-historiens confirment, hein, que les cosmogonies préhispaniques sont caractérisées par l'hybridation, par la transformation, hein, le nahualisme, par exemple, hein, qui est la transformation d'un homme d'un individu en animal. Chaque individu a son nahual et sa capacité de se transformer pour faire le bien ou le mal, selon les cas, sous sa forme animale. Et cette capacité à conjoindre les éléments en opposition. C'est le dualisme mexicain, mais qui s'oppose au dualisme occidental. Vous savez, d'Escola, dans son dernier livre, il parle beaucoup du dualisme occidental. Lui, qui est un grand américaniste, par ailleurs, n'ignore pas évidemment, que le dualisme occidental est exclusif. C'est le purisme occidental. Il oppose l'un et l'autre, soit dans le manichéisme, soit dans une construction manichéenne, hein, l'un contre l'autre, soit dans la dialectique, hein, où c'est l'association de l'un et de l'autre qui permet de retrouver une nouvelle unité, en quelque sorte. Hein. C'est le dépassement de la dualité vers l'unité. Il y a toujours cette nécessité de dépasser la dualité, soit par le rejet de l'altérité, soit par la conjonction et la synthèse de l'altérité et de l'identité pour une nouvelle unité. Mais au Mexique, c'est pas ça dans le Mexique indigène. C'est le maintien de la dualité. Au contraire, c'est l'organisation dualiste elle-même, mais qui est un dualisme inclusif, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont inclus dans une figure duale. Et donc, la fascination ancestrale pour l'étranger et ses signes, que l'on va absorber par le mimétisme, on va imiter le blanc, on va imiter le métis, on va copier ses rites. Là, je vous renvoie aussi, pour l'Amérique du Nord, aux passionnants travaux de l'historien Gilles Avard sur l'Amérique française, où il y a toute une analyse justement du mimétisme des Indiens par rapport aux Français. C'est en même temps la nécessité d'absorber ce qui est extérieur à l'univers de la tribu par la chasse, par la guerre rituelle, par le sacrifice et par l'adoption de la du guerrier captif, mais aussi du gibier que l'on capture. Et donc c'est un système de transformation en fait dans lequel le bœuf et le cheval vont être intégrés et qui va permettre l'adoption de ces animaux, mais l'adoption par transformation. C'est-à-dire c'est pas une adoption c'est pas encore une fois une acculturation. C'est pas des Indiens qui vont ou les indigènes au sens moi j'inclus les métis là-dedans parce que finalement les communautés métisses font à peu près la même chose. C'est pas une acculturation, c'est une vampirisation plutôt. On va chercher l'altérité pour la transformer, la ramener à soi-même et en faire une composante de sa propre culture. Tout cela était déjà, comme disait Lévi-Strauss quelque part, il y avait déjà une place qui était prévue pour le blanc, les blancs et le monde blanc dans le monde indigène. Et là-dessus, je crois que le cas du taureau et du cheval, que ce soit à travers les jeux d'arène, la charreada, le jaripeo dont je fais état dans cet ouvrage-là, mais aussi à travers les formes mimétiques de jeux d'arène, qui sont les danses de toritos, que j'étudie également dans le même ouvrage, où ce sont dans les communautés indigènes, on voit au cours des fêtes de carnaval ou des fêtes patronales, on voit des Indiens se livrer à des corridas parodiques à partir d'animaux de figurines taurines qui sont portées par des porteurs qui figurent la charge des taureaux. Donc il y a toujours cette obsession à la fois de l'animal hispanique, du blanc, le masque du blanc que l'on revêt dans les carnavals, le blanc, le propriétaire, tout ce qui incarne le pouvoir hispanique qui est intégré dans la fête indigène comme une nécessité de s'accaparer l'altérité pour en faire précisément les principes de l'identité. Bon, je crois que j'ai peut-être arrêté là, j'avais plein de choses encore notées, mais je crois qu'il vaudrait peut-être mieux donner l'ouverture au débat. Merci de votre attention.